12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place au livre, évidemment, puisque nous sommes ici en direct et en public du Festival du Livre Paris. Et pour l'occasion, nous parlons aujourd'hui de deux romans unis. Sous le signe de l'eau, il y aura des larmes, des rivières, de la pluie et des flaques. Avec d'abord L'origine des larmes de Jean-Paul Dubois, paru aux éditions de L'Olivier, puis Du côté sauvage de l'américaine Tiffany McDaniel, disponible aux éditions Gallmeister.
Et en plus d'accueillir le public du Festival du Livre de Paris, nous accueillons nos critiques. Élise Lépine, bonjour.
Bonjour.
Journaliste littéraire au Point. À vos côtés, Lucille Comeau. Lucille, bonjour.
Bonjour à tous.
Productrice à France Culture, on vous retrouve tous les matins à 8h55 dans les matins de France Culture pour votre regard culturel. Soyez tous et toutes les bienvenus dans les Midis de Culture.
Et on commence avec le roman « L'origine des larmes » de Jean-Paul Dubois, paru aux éditions de L'Olivier.
Il pleut tellement, et depuis tant de temps. Des averses irréversibles qui semblent surgir de partout, la nuit comme le jour. Parfois, une accalmie laisse entrevoir une parcelle du ciel d'autrefois, bleu lavé, mais très vite assombrie par de sombres vagues de nimbocumulus. Cela fait 2 années que le temps s'est graduellement détrempé, transformant cette ville de briques sèches en une vallée lessivée par un régime de pluie. Tantôt, ce sont de brusques et violentes tempêtes qui décoiffent les toits, tantôt de longues et patientes averses épuisent les arbres et font enfler les fleuves. La punition des eaux épure les rues, accable les charpentes et habite nos vies.
Nous sommes à Toulouse en 2031 et il pleut, sans arrêt, partout. La faute au changement climatique, les maisons s'effritent, les façades s'effondrent, comme la vie de Paul Sorensen, 51 ans, dirigeant d'une entreprise de housses mortuaires. À ceci près que sa vie n'a été qu'un effondrement permanent, fils d'une mère décédée en couche et d'un père monstrueux, frère d'un jumeau lui aussi disparu. L'origine des larmes est là, la vie de Paul est une vie de mort. Et le récit commence d'ailleurs par la mort du père monstrueux, un cadavre auquel Paul inflige 2 balles dans la tête. Mais pourquoi tuer un mort? C'est toute la matière de ce roman. Condamné pour ce non-meurtre à 1 année de séance avec un psy, la vie de Paul s'effrite alors sous ses yeux en larmes et sous la plume de Jean-Paul Dubois, pour le coup sèche et drôle. Lucille Comeau, qu'avez-vous pensé de ce nouveau livre de Jean-Paul Dubois qui avait remporté, je le précise, le Goncourt pour son roman précédent en 2019?
Oui, mais c'est vraiment, et on l'entend quand vous essayez de le résumer, c'est pas facile. Hein,
mais il y a plein de trucs drôles qu'on a envie de dire.
Oui, tout à fait. Et puis des trucs pas drôles du tout aussi qu'on a envie de dire. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce roman, on a l'impression d'entrer dans un roman noir, un petit peu, parce qu'il y a quelque chose d'une enquête. Il se fait arrêter, ce monsieur, ce Paul, et puis pour avoir en effet tiré sur le cadavre de son père, et puis il va être condamné à raconter en fait sa vie, donc condamné au récit. Ce qui est une belle entrée en matière et une belle mise en abîme, mais ce qui nous fait aussi tout le temps soupçonner que ce qu'on nous dit n'est pas forcément la vérité. Donc il y a toujours, surtout ce qu'on lit dans ce livre, une espèce de soupçon qui peut en effet prendre la forme de l'humour. Est-ce qu'on est en train de se moquer de nous? Ou au contraire de la tragédie, est-ce qu'on est en train d'amplifier la situation? Parce que c'est absolument abominable ce qui lui arrive à ce pauvre Paul, à la fois ce qui lui arrive au présent, donc il est condamné pour le remeurtre de son père, et puis ce qui lui est arrivé dans son passé. Il a eu un père qui est une espèce d'ogre, comme un ogre de conte, qui l'a littéralement détruit depuis qu'il est petit. Hein, la première chose qu'il raconte, c'est que un de ses souvenirs paternels, c'est son père qui arrache devant lui la tête d'un petit canari domestique.
Bon, qui lui offre pour son anniversaire.
Voilà, exactement, pour son anniversaire. On est vraiment dans l'ordre à la fois de l'Ancien Testament et du conte. Enfin, c'est un Job, ce personnage principal à qui il arrive tous ses malheurs. C'est un livre qui est tellement étrange. Je dirais son étrangeté est à la fois ce qui me le rend beau et sympathique et en même temps ce qui me repousse un peu. Je le trouve pas forcément dérangeant, mais en tout cas très troublant dans la manière dont il nous tient en non-adhésion. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on doit rentrer en empathie avec ce personnage-là. Et pas particulièrement sympathique lui-même. Est-ce que d'ailleurs il n'a pas des traits communs avec ce père odieux dont il parle en permanence? Est-ce que c'est pas lui? Voilà, ce fameux Thomas Lansky, qui a un nom extraordinaire. Je pense que c'est un livre très cérébral et qui en même temps parfois fait mine de vouloir nous faire ressentir des choses très fortes, parce qu'il y a du lyrisme aussi et de l'emphase dans ce livre-là. Et je ne suis pas très à l'aise avec cette espèce de position très manipulée dans laquelle on se trouve en tant que lecteur.
Élise Lépine, qu'en avez-vous pensé?
Alors moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai une longue histoire avec Jean-Paul Dubois de Lectrice. C'est un écrivain que je lis depuis bien avant de faire ce métier. Je l'ai lu très tôt et j'ai une petite anecdote. Quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allée lui faire dédicacer, je crois que c'était à la FNAC à Lyon, mon exemplaire de « Je pense à autre chose », qui était un de mes livres fétiches de lui. Et il a fait la dédicace dans ce livre qui est pour moi mythologique. Il m'a écrit « Je vous souhaite une longue vie heureuse ». Et je sais pas pourquoi, mais alors moi j'ai eu beaucoup de dédicaces forcément ensuite par mon métier, et personne ne m'a jamais fait une dédicace aussi belle. Et au fil des années, cette longue vie heureuse que m'a souhaité Jean-Paul Dubois est devenue comme une espèce de talisman pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est un auteur qui effectivement raconte des histoires de suicide, des histoires de dépression, des histoires de gens qui ont des parents horribles, ou des femmes horribles, ou des frères jumeaux
horribles. Des longues vies malheureuses.
Mmh. Et en même temps, je pense qu'il y a une sincérité, j'ai toujours trouvé chez Jean-Paul Dubois une sincérité, une bonté intact au cœur de son écriture et au cœur de lui-même, je pense, qui fait qu'il est capable de voir une jeune femme de 20 ans débarquer et lui dire, il m'avait dit mais ne lisez pas ce livre, il est trop déprimant, et il m'avait souhaité une longue vie heureuse. Et en fait c'est ça que j'aime chez lui, c'est que c'est l'écrivain de La Noirceur et l'écrivain de La Planche de Salut, et il y a toujours chez lui une volonté de chercher, et c'est pour ça qu'il est drôle et c'est pour ça qu'on ne s'effondre jamais quand on lit un de ses livres. Il y a toujours un courant de sincérité, d'optimisme dans ces.
Alors vous ne voyez pas justement, Élise, la dimension peut-être insincère ou manipulée que perçoit Lucille dans ce texte avec ce récit. Il faut le rappeler quand même, donc de ce héros Paul. Il y a une première partie où en fait il raconte le remeurtre. Moi j'ai dit le non-meurtre de son père déjà mort, ce parricide. Puis ensuite les séances de psy, une par mois. Donc il y a vraiment deux parties. Et effectivement, c'est toujours à travers la parole de Paul qu'on a ce récit-là. Donc il y a toujours cette distance qui peut s'instaurer. Vous l'avez pas ressenti, Élise ?
En fait, si, mais c'est aussi insincère que peut l'être une séance de psy. Chez le psy, ceux qui y sont allés savent que quand on est chez le psy, finalement, on est censé dire la vérité. Mais en fait, ce qu'on raconte, on se raconte soi-même et on raconte une version de soi-même. Et finalement, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. C'est que cet homme donne une version de son histoire. Et une version d'une histoire qui avait déjà été transformée par ce fameux père monstrueux qui, à un moment donné, lui fait croire qu'il a un grand-père incroyable. J'en dis pas plus, mais qui lui fait miroiter quelque chose sur le secret de ses origines, qui rend cet enfant qui n'a que 16 ans à l'époque complètement fou de joie. Et puis il va se rendre compte que tout ça est faux, que c'est un mythe. Et là, il va s'effondrer complètement et puis se réinventer autrement, toujours avec en ligne de mire, finalement, la volonté, le rêve de tuer cet homme et de le tuer symboliquement. Donc on est vraiment dans quelque chose de très psychanalytique, mais avec l'insincérité qu'impose aussi la psychanalyse. C'est-à-dire que je ne sais pas si les gens disent vraiment la vérité chez le psy ou s'ils disent...
Bah, à force, au bout de plusieurs années, il y a quand même des petits bouts qui sortent.
Mais il y a des petits bouts qui sortent, mais là aussi, il y a des petits bouts qui sortent, ou des gros bouts même. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le psy lui dit, on va parler de telle et telle chose, et lui, même parfois, il est rétif, il s'en va, il rate une séance, à un moment donné, il part, il marche sous la pluie, puis il revient, et le psy lui dit, ne lui ouvre pas la porte. Enfin voilà, il y a toute cette relation que je trouve intéressante, parce que justement, elle est très humaine. En fait, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est très humain.
Alors justement, sur ces séances de psy, Lucille, sur le discours qui est mis en place, séance de psy assez artificielle d'ailleurs, parce que non seulement c'est une demande de soins par le juge, mais en plus, chaque mois est imposé un sujet, ce que j'ai jamais vu dans une séance de psy, donc un jour la mère, un jour le père, un jour le grand-père, etc.
Mais de toute façon, le dispositif est loufoque, comme plein de choses qui sont à l'intérieur du livre. Moi, c'est ça en fait qui me pose question, c'est qu'on a plusieurs dispositifs qui sont des dispositifs sérieux de la narration, donc il y a le journal en effet, vous le disiez tout à l'heure, parce que c'est vraiment lui qui écrit à la première personne, donc on est censé réceptionner ça comme un journal avec un truc un peu chronologique. Il y a ces séances de psy avec toujours le doute sur l'autorité de la parole. Est-ce qu'il est en train de rapporter la séance de psy telle qu'elle s'est passée ? Il y a un niveau de feuilletonnage, de feuilletage plus exactement, des instances narratrices qui fait qu'on est parfois un peu perdu. Et c'est là que j'aimerais voir ce que vous voyez en fait, Élise. Mais moi, j'arrive pas à entendre la sincérité qui pourrait être totalement construite, ça me dérange pas, mais d'un vrai personnage. Or, l'intérêt principal, c'est d'être en empathie avec ce personnage.
Ah, donc, un problème de personnage même pour vous, peut-être de construction de personnage, en tout cas de voix.
Je sais pas si c'est un problème de construction, je suis sûre que c'est hyper bien maîtrisé de la part de Jean-Paul Dubois. Je dis juste que le but de simplement nous troubler sur l'identité, et y compris l'identité psychologique d'un personnage, ne constitue pas pour moi un intérêt littéraire suffisant pour tenir. Moi, je le trouve long, par exemple, le roman, alors que c'est pas un roman très long. Je l'ai trouvé long. Je trouve qu'il y a, une fin qui tire un petit peu, avec une espèce d'apogée lyrique à la fin, à laquelle je crois pas vraiment, puisqu'on n'a pas arrêté de me dire pendant des pages et des pages qu'il fallait pas que je croie vraiment à ce que j'étais en train de lire. Donc, je le trouve un peu long. Je trouve que ça ressemble un peu à une nouvelle étirée.
Élise, sur la dimension étirée et aussi sur la construction de ce caractère, de ce personnage.
Non, moi je ne l'ai pas trouvé long, je l'ai même trouvé trop court. Moi je trouve toujours les romans de Jean-Paul Dubois trop courts. Parce que, en fait, et c'est aussi parce que j'ai lu, je pense, beaucoup de ses romans et qui créent un effet chambre d'écho, Jean-Paul Dubois, avec ses livres. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent sans cesse. Le jumeau, la mort, les chiens, les noms des personnages même se répètent.
La dépression.
La dépression, mais il y a aussi des choses aussi singulière que les tondeuses à gazon ou les accidents d'ascenseur. Là, il y en a encore un. Qu'est-ce qu'on ressent dans un accident d'ascenseur ? Enfin, il nous ramène toujours à ces questions-là. Et en fait, je trouve que c'est là que se niche, d'une part, la drôlerie de ces textes, parce que la mort, effectivement, est terrible et fait peur dans tous ces livres. C'est vraiment se couper au-dessus de la tête des personnages. Et en même temps, là, il nous emmène au salon de la mort à Las Vegas avec des personnages improbables. C'est des petites respirations comme ça qui, moi, me font beaucoup rire et qui me plaisent beaucoup. Il y a le chien aussi. Moi, j'adore les chiens. Et dans les livres de Jean-Paul Dubois, il y a des chiens. Et là, son chien, c'est un chien ultra comique parce que quand il est sec, il est super beau. Il a une grande fourrure, une belle tête, etc. Et quand il est mouillé, il est complètement ridicule. Et donc, il aime son chien profondément. Là, je pense qu'on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas une sincérité, au moins là, dans cette relation qu'il a avec ce chien qu'il aime et un autre chien ensuite qui va chercher, qui va retrouver et qui porte à la fois ce mélange de vie et de mort et de dépression et d'optimisme qui est la marque des livres de Jean-Paul Dubois. Et moi, ça me touche profondément et je me demande plus où est la sincérité, parce que la sincérité du personnage et la sincérité de l'auteur, finalement, ça m'indiffère un peu parce que je trouve dans ces livres-là, moi, ma propre sincérité. Et je trouve une émotion sincère à un moment donné qui est la mienne. Et c'est ça qui est important pour moi dans ces livres.
Sur ce décalage aussi, sur le style de Dubois, on dit que c'est un auteur aussi qui écrit sur la dépression, mais c'est vrai qu'il y a un style un petit peu aussi glacial, à distance, qui fait ressortir une forme de drôlerie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la farce dans cette dépression.
C'est-à-dire que c'est une écriture très accidentée. Et c'est ce que j'essayais de décrire dans mon trouble et dans ma manière d'adhérer ou pas à ce qui est raconté. Il y a des moments extrêmement comiques. Et puis, il y a des moments, en effet, très froids. Et ça se voit au niveau de l'écriture, mais quasiment à l'échelle d'une page. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un registre à un autre en très, très peu de temps. Moi, ce que je voulais dire et que je trouve vraiment très, très beau dans ce livre, et c'est vraiment rare, je trouve, parce que c'est une forme tellement dévoyée aujourd'hui, c'est le fonctionnement de la dystopie. C'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on se retrouve en 2030. Donc, c'est une espèce de futur proche qui est, en fait, le contexte maintenant d'un nombre de fictions incroyables, à la fois au cinéma et en littérature. On en a tellement bouffé qu'on ne sait plus où trouver une espèce de singularité là-dedans. Et là, c'est assez bien fait, je trouve, cette France qui est sous l'eau, donc l'inverse de ce qu'on imagine être, parce qu'en plus, ça se passe à Toulouse, l'Occitanie, dans quelques temps, ils souffrent plutôt de la sécheresse. Là, c'est l'inverse. On est dans une humidité partout, tout le temps, croissante. Et ça, je trouve ça assez beau, parce que ça décale complètement la forme de la dystopie.
Et alors, j'aimerais juste qu'on termine sur le motif de l'eau, parce que c'est un peu le motif qui unit ces deux livres dont on parle ce midi. Alors là, il y a l'origine des larmes, c'est le titre. Il y a la pluie dont vous parliez, Lucille. Et puis, il y a quand même ce psy, Frédéric Guzman, qui ne fait que pleurer pendant les séances de psy, pas parce qu'il est ému, mais parce qu'en fait, il a une sorte de conjonctivite. Donc, il doit aller se mettre du dacryosérum toutes les deux minutes, à chaque moment un peu de climax du récit de Paul. Ça fait partie justement des choses un petit peu inattendues qui mettent à la fois du décalage plaisant ou au contraire de la mise à distance, Élise.
Oui, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il utilise l'eau pour montrer l'absurdité des choses. L'absurdité de cet homme qui pleure sans pleurer, à tel point qu'on se demande si parfois il pleure pas vraiment. En utilisant sa maladie comme un prétexte pour cacher son émotion. L'absurdité d'une humanité qui a fait en sorte qu'on ne vive que sous des litres et des litres de pluie qui vont finir probablement par causer la perte du monde, ou en tout cas la rendre la vie très difficile. L'absurdité de l'océan qui nous attend, qui nous tend les bras et dans lequel on peut aussi bien s'ébattre et s'amuser avec son chien, prendre un bain, etc., que aller se noyer parce qu'on n'en peut plus de la vie. Et en fait, je trouve que l'eau, c'est un élément très fort dans ce texte parce qu'elle rassemble finalement ce côté à la fois très sérieux de Jean-Paul Dubois dans sa thématique des larmes, de la gravité, de la mort, du futur noir, etc. Et en même temps, la possibilité de quelque chose. La possibilité de peut-être vraiment pleurer, peut-être vraiment s'amuser dans l'eau, ou peut-être vraiment prendre... La pluie, il la trouve agréable, hein, le personnage, parfois.
En quelques secondes, Lucille, sur l'eau.
Oui, en quelques secondes. Bah, l'eau, en fait, c'est vrai, ça fait vraiment une espèce de métaphore filée, parce que ça regarde toutes ces parties disparates dont j'ai parlé jusque-là. C'est-à-dire que tout ce qui est divers dans le livre est finalement sous l'égide de cet élément liquide rassemblé. Moi, je trouve que c'est un peu un truc. Je le vois beaucoup, je vois l'artificialité de la métaphore, je vois en quoi c'est là pour justement faire livre, et ça peut m'agacer un peu.
Larmes, je pleure toutes mes larmes, je pleure, 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 oh, je pleure toutes mes larmes, je pleure, pleure, pleure.
L'origine des larmes de Jean-Paul Dubois, c'est aux éditions de l'Olivier et c'est sorti à la mi-mars.
12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosnas.
Et Nicolas Herbeau, voilà, on va reprendre le jingle en direct puisque nous sommes en direct du Festival du Livre de Paris. Nous poursuivons cette table, ce débat critique avec Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, c'est aux éditions Gallmeister.
Les gens du coin appelaient la rivière en automne l'œil de Dieu, à cause de la façon dont les feuilles jaunes, bordeaux et pourpres, tombaient des branches la surplombaient. Les gens du coin appelaient.
Alors voilà, c'était les premières lignes du roman, donc je ne vais pas les lire à mon tour. Je vous raconte, je passe directement à l'introduction de ce livre. Dans ce livre, encore de l'eau, sauf qu'ici, l'eau ne vient pas du ciel, mais se cristallise dans une rivière. L'œil de Dieu, là où les femmes du coin se retrouvent et se baignent, là où Arc et Daffy, sœurs jumelles nées à une minute d'intervalle, grandissent. Là où des années plus tard, à leurs 20 ans, des femmes seront retrouvées noyées, leur corps flottant à la surface. Que se passe-t-il à Chillicothe, cette bourgade fantôme de l'Ohio où les spectres rôdent, où l'héroïne brûle les veines, à commencer par le père d'Arc et Daffy, morts quand elles avaient 6 ans, et par leur mère et leur tante, défoncées à longueur de journée. Écrit en hommage aux 6 disparus de Chillicothe entre mai 2014 et mai 2015, Tiffany McDaniel, pour son troisième roman, déploie toute l'épaisseur surnaturelle et sauvage de ce cocon malsain, duquel les femmes marginales et indésirables sont les premières victimes. Qu'en avez-vous pensé, Élise Lépine ?
Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé ce texte. J'attendais beaucoup de ce roman. J'avais adoré Betty, qui était sortie il y a quelques temps et qui a absolument explosé sur la scène littéraire. Je crois qu'il s'est vendu à je ne sais plus combien de 500 000 exemplaires ou je ne sais combien. Et c'était un roman qui était très beau, qui m'avait énormément touchée, qui racontait l'histoire de la mère, de la tante, de la grand-mère de Tiffany McDaniel, qui était plein d'images, qui était plein de poésie, qui s'interdisait rien du tout, etc. Ensuite, il y a eu L'été où tout a fondu, qui était un roman précédent, et dans lequel, qui était plus ramassé, qui était aussi très bien. Et moi, j'attendais ce côté sauvage-là, parce que je savais que ce projet était tentaculaire. C'était pas l'histoire personnelle de l'autrice, donc ça allait être autre chose. Je savais que ça partait d'une histoire de mort réelle, etc. J'ai pas été du tout déçue parce que j'ai retrouvé d'une part sa noirceur en beaucoup plus exacerbée que dans Betty, parce que là c'est vraiment des histoires de meurtres terribles, sa poésie, sa violence, sa passion, et j'aime énormément le fait qu'elle ne s'interdise absolument rien dans ce texte. Alors on peut trouver ça étrange, on peut trouver ça écrasant, on peut trouver ça un peu perturbant, mais en fait moi je trouve que c'est particulièrement touchant qu'elle dédie ce texte à ces 6 femmes qui sont effectivement disparues, sur lesquelles on a manifestement très mal enquêté. Je suis allée lire des articles de presse, l'enquête a été bâclée comme elle l'est dans le livre. Dans le livre, la police s'en fiche complètement, personne ne vient au secours de ces femmes qui sont des droguées, des prostituées, donc voilà, mépris social, on s'en fiche. Et je trouve qu'en fait, c'est magnifique qu'elle leur donne ce monument littéraire-là. Ce sont des femmes, des personnages, les 6 femmes du livre, qui passent leur vie à se fabriquer des petits colliers avec des perles en plastique, des petits talismans avec des cartons, des petits trucs avec des bouts de ficelle, des mausolées par-ci par-là, etc. Malgré le fait qu'elles aient des parents horribles, qu'elles soient finalement droguées, qu'elles se prostituent, qu'elles soient violentées, violées, etc. Elles passent leur vie à chercher la beauté, à regrouper les choses. Et Tiffany McDaniel arrive derrière avec ce livre qui est mais sublime, qui ne s'interdit pas la poésie et qui, à un moment donné, dit bah oui, la poésie, elle est aussi là. Et ces femmes-là, elles auraient pu avoir une vie magnifique. Elles auraient pu être architectes, elles auraient pu être archéologues, elles auraient pu être poétesses. Et voilà ce qu'on leur a fait. Et moi, ça m'a mais bouleversée. Quand j'ai terminé le livre, je suis allée dormir. Ça m'arrive jamais de faire ça en journée.
Lucille Como, vous êtes allée dormir aussi après ?
Non, je ne suis pas allée dormir, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu écrasant dans ce livre, à la fois au bon et au mauvais sens. C'est-à-dire que c'est un livre qui fait 700 pages, qui est d'une densité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de pages n'en dit pas grand-chose. Ce qui est très impressionnant, c'est la construction des chapitres qui sont saturés. D'ailleurs, ils ne sont pas saturés que de textes. Il y a aussi des dessins, notamment des araignées qui figurent à chaque fois l'arrivée des hommes. Les hommes qui sont quasiment absents de ce livre. Hein. C'est vraiment un livre, en effet, vous le disiez, un cocon, on pourrait dire c'est un anti-cocon, c'est un petit monde, ça se passe sur quelques, on peut imaginer centaines de mètres carrés dans un petit bled de l'Ohio, et où en fait tout se joue entre femmes, à la fois verticalement, parce qu'il y a des dynasties de femmes, il y a la mère, il y a la grand-mère, c'est très important, les ancêtres, et au niveau horizontal, puisqu'il y a une sororité, bon an, mal an, qui se met en place entre ces femmes-là, qui subissent toutes des violences de la part d'hommes, qui eux font irruption dans ce monde de manière, et dans le livre, de manière très graphique, avec ces araignées qui se baladent sur les pages. C'est très impressionnant et en même temps c'est très lourd, c'est-à-dire que cette espèce de volonté de faire poésie avec ça, elle passe par la mise en place de réseaux de signes qu'on connaît bien maintenant aussi en littérature.
Donc, quel
signes,
par exemple,
qui sont la mythologie de la sorcière, ce rapport très, très archaïque et très fort que les femmes sont censées avoir avec la nature, la rivière notamment, les arbres, le vent, le ciel, les étoiles, tout ça très pris vraiment au premier degré. Alors bon, moi je fréquente peut-être beaucoup trop les choses culturelles et j'ai l'impression que j'ai beaucoup lu et beaucoup vu ça aussi au cinéma, et j'avoue que ça me dévitalise un tout petit peu l'engagement par ailleurs du livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui entend être un grand geste, un pavé dans la mare de la violence faite aux femmes. En l'occurrence, on a tellement déjà, je trouve, vu ou entendu ça que ça commence à faire lieu commun, et qu'il va peut-être falloir trouver maintenant des nouvelles images, des nouvelles manières d'écrire ça pour sortir la grande fiction féministe de quelque chose qu'on connaît déjà presque trop, je crois. Là, je me suis vraiment posé cette question à la lecture de ce livre, de manière un peu plus globale. On en est où de l'écriture de la violence faite aux femmes ? On en est où de ce type de faits divers et de la manière dont ça peut être pris en littérature ?
De la même manière qu'on aurait pu se poser la question pour Jean-Paul Dubois, on en est où de l'écriture de la dépression ? Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre ? Vous, Élise, vous avez été confrontée à cette question-là aussi. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'elle renouvelle vraiment les signes, les manières d'écrire sur la manière dont on considère les femmes autrement que sur un terrain effectivement un petit peu de fétiche, de mystique, de sorcière?
Non, elle renouvelle pas, et moi ça m'a pas dérangé qu'elle renouvelle pas, parce qu'en fait
elle en avait pas encore assez.
J'en ai pas. Alors en fait si, j'en ai extrêmement assez. J'aime pas trop les histoires de féminisme et de sorcières. C'est un truc qui en général moi me rebute. C'est peut-être pour ça que ce livre m'a plu. En général ça me passe un peu au-dessus. Je trouve ça un petit peu bétifiant pour les femmes. Ça les réduit un peu à un truc finalement vivons en paix avec le cycle de la lune, etc. Et qui finalement simplifie tout et que je trouve pas très intelligent. Moi j'adhère pas à ça. Mais dans ce texte, en fait, je trouve qu'elles part d'un héritage un peu mystique, New Age. Elle remonte jusqu'aux Amérindiens. Elle est descendante d'Amérindiens. Et elle s'empare aussi de cet héritage-là. Elle le fait de manière légère, mais quand même politique, comme dans son précédent roman, dans Betty. Et moi, j'ai aimé qu'elle incarne farouchement une époque. Son livre, il se passe dans les années 90. C'est pas notre époque contemporaine. Ça se passe avant que la mode des sorcières, en tout cas en France, ne déferle et devienne une espèce de figure un peu facile du féminisme. Et en fait, elle montre... Elle relie plusieurs choses. Elle relie l'époque des sorcières de Salem avec cet ancêtre qui a été brûlé et qui leur donne la peau chaude, les cheveux roux, etc. Elle pense que c'est un héritage. Ça remonte aux hippies, où on comprend que cette grand-mère qui les élève et qui est peut-être le seul espoir qui est pour elle et qui malheureusement va s'éteindre. On comprend qu'elle, c'est un mélange de cette sorcellerie et d'une époque un peu, voilà, mai 68, etc. Elle a des grandes écharpes. Elle croit qu'il faut enterrer des bulbes ou les sortir, les mettre sous l'oreiller pour faire des beaux rêves, etc. Donc là, et après, on est dans la période grunge. Et moi, j'ai pensé à Kurt Cobain. J'ai pensé à Nirvana, on fêtait les 30 ans. Enfin, on pleurait les 30 ans du suicide de Kurt Cobain. Et je pensais à ça, je me disais, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un côté très américain que nous, on n'a pas en France, où justement, dans les milieux intellectuels, on considère que la poésie, que le côté cérébral, tout ça, c'est du côté des gens qui vont bien. c'est du côté des gens qui sont socialement dans certains cercles, etc. Aux États-Unis, Kurt Cobain, c'est un mec qui était quand même accro à l'héroïne, suicidaire, qui vomissait partout sur la scène et qui en même temps, quand on lit sa lettre de suicide, quand on lit ses poèmes, quand on lit son journal, c'est d'une poésie intense qui ne se refuse rien. Et j'aime bien le fait qu'elle nous dise, bah voilà, l'Amérique, c'est aussi ça. L'Amérique et la littérature américaine, c'est aussi être capable d'à un moment donné être super crasseux, avoir une aiguille dans le bras et vous sortir une phrase d'une poésie qui va vous clouer au siège. Ça, j'adore.
Lucille.
Oui, ceci dit, je pensais en vous écoutant que justement, le substrat naturaliste vraiment du roman, parce que c'est aussi un grand roman naturaliste sur l'Amérique contemporaine, enfin c'est vrai que pas totalement contemporain parce que ça fait quelques années avant nous, mais c'est aussi un livre sur la précarité sociale, en effet la drogue, ce que c'est qu'être mère et se droguer, enfin des choses comme ça, de très terre à terre, tout ça me plaît assez dans le livre parce que c'est justement assez singulier.
Puis c'est tellement
la description
noir
des lieux
c'est
est incroyable. Il y a vraiment quelque chose de. Enfin, ça commence donc dans cet endroit où elles vivent enfants, les deux petites, avec leur mère et leur tante, entre le mobil-home et une espèce de préfabriqué. On ne sait pas exactement, mais justement, c'est pas l'Amérique des white trash qu'on nous rabâche, qu'on imagine. C'est encore autre chose. C'est quelque chose de très étrange. Et la mère, le père vient de mourir, donc ça commence quand même par la mort du père aussi. Et la mère cloue les vêtements du père aux fenêtres pour boucher les fenêtres et qu'on ne pense pas qu'il n'y a plus de présence masculine dans ce lieu-là. Et ça, je trouve vraiment cette image-là, elle est saisissante. Le problème, c'est qu'elle est en permanence, cette réalité qui a l'air particulière et qui est très forte, parasitée par des réflexes poétiques que je trouve de l'ordre du réflexe, justement, que je trouve dommageable. Mais ouais.
Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, c'est aux éditions Galmester, c'est traduit de l'américain par François Happ. Merci à toutes les deux, Élise Lépine. On vous lit dans Le Point. Lucille Como, on vous écoute tous les matins à 8h55 pour votre regard culturel, c'est sur France Culture. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.